C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Je fais une parenthèse ce matin pour offrir tout. Plus sincère condoléances à notre ex-collègue René Vizina, sa conjointe Marie-Claude. Ils ont eu la douleur d'apprendre la mort de leur fils Étienne Ducas Vizina, qui était porté disparu en fin de semaine. Et on l'a retrouvé dimanche après-midi, malheureusement décédé. Étienne avait 21 ans et René a partagé cette information sur les réseaux sociaux en fin de semaine, en disant que c'était son fils adoré qu'il avait appris la nouvelle de son décès, pas beaucoup de détails, et se disait très touché par les nombreux messages reçus sur les réseaux sociaux, des messages d'encouragement, d'abord dans un premier temps, et puis après de condoléances. Étienne, qui était, disons, déchiré, souffrait, marqué par des idées noires depuis assez longtemps. Je me souviens du cas où il était avec sa mère, Marie-Claude Ducas, en France, où il avait fait une fugue également. Alors là, on le recherchait activement, mais malheureusement, on l'a retrouvé décédé. Vous avez entendu Bénédicte parler de cette école là, qui est sous surveillance policière, puis de donner les autres exemples, puis de ce professeur qui a été poignardé. C'est pas la première fois qu'il y a des menaces qui concernent comme ça des écoles. Mais on est dans un contexte aussi avec des réseaux sociaux qui sont des bombes à retardement, puis à circulation des armes, qui peuvent énormément inquiéter, même si on le sait que la plupart du temps, c'est quelqu'un, quand on va le trouver, qui va dire que c'est une farce plate puis que c'est un canular. Je vais vous raconter ce matin l'histoire de Cindy, qui est une mère d'un adolescent. Et elle nous raconte sa journée, celle du mercredi 8 décembre. Elle reçoit un appel habituel, dit-elle, de l'école. Son fils est en crise, il frappe dans les murs, il a brisé une table de baby-foot et on lui dit « Venez chercher votre gars ». Elle a dit « Ça n'a pas de bon sens, appelez la police, faites quelque chose », d'autant plus qu'on découvre que pour la deuxième fois cette semaine, ils ont trouvé des armes blanches. Puis j'ai vu les photos, là, couteau de chasse, tournevis, couteau à tissu, puis d'autres items comme ça. Et quand la crise a éclaté, lorsque la direction lui a demandé de fouiller son sac et ses poches afin de valider qu'il n'y avait pas d'autres objets dangereux. Comme je vous le dis, ce n'est pas la première fois. Il fait peur, il peut être sous contrôle, puis des fois, il pète sa coche. Mais quand il pète sa coche, il peut tout casser. Puis dans la maison, les parents sont là, en fait, conjoint de la mère, mais aussi deux enfants en bas âge. Alors là, la mère dit, il est suivi, il est aidé, il a eu des diagnostics, des troubles de conduite, des troubles graves du comportement depuis qu'il a 12 ans, puis ajouter à cela un trouble de l'attachement, TDAH, et il nous fait peur. C'est ça la phrase qu'il faut retenir. Je cherche depuis qu'il a 8 ans à l'aider à aller mieux, mais je sais que la fatigue, l'épuisement, la peur font que mes interventions ne sont plus à la hauteur. Signalement à la DPJ, c'est retenu depuis 2 semaines, mais on m'a dit que juste pour l'évaluation, ça peut prendre facilement jusqu'à 2 mois. Puis pendant 2 mois, plusieurs fois par semaine, il pète des coches, il lance tout sur les murs, puis là, il se promène avec des armes blanches. Je rappelle que c'est arrivé la journée où ce professeur a été poignardé. Et c'est pour ça qu'elle a décidé de nous écrire, puis qu'elle sera avec nous ce matin pour partager disons, ce qu'elle vit, ce qui est assez stressant. Puis il y a combien de parents qui vivent cette situation-là? On parle souvent des adultes qui ont des troubles de santé mentale, des jeunes adultes, puis qui vivent avec leurs parents. Puis les parents vieillissent, puis ils sont comme terrorisés. Et c'est un peu ce qui arrive dans ce cas-là. Quand ils piquent une coche, la directive aux deux petites, là, allez-vous-en dans la chambre, puis cachez-vous. Votre frère est pas bien. Alors, peut-être moyen d'accélérer, là. Je comprends qu'il est suivi et tout ça, mais il y a peut-être une intervention autre qui est nécessaire dans ce dossier. Revenons quand même sur les forts vents violents. Je rappelle qu'actuellement, 69 000 personnes toujours privées d'électricité, beaucoup dans les Laurentides encore ce matin, Montérégie. Et comme c'est souvent le cas, ce sont des pannes isolées. Il faut les réparer une à une. Alors, on est passé de quoi? 300 quelques mille abonnés privés de courant. Là, c'est 69 000 foyers environ qui restent. tout ça en raison des vents violents qui ont balayé la région de Montréal. Ce qu'on a connu, ce sont des vents records au cours de la fin de semaine. La perception qu'on en a, c'est que c'est assez variable d'un endroit à l'autre. Puis on faisait tantôt le survol avec l'équipe. Beaucoup l'ont ressenti. D'autres, oui, ça ventait, pas autant. Mais il y a quand même des secteurs là où ça a été quand même, disons, en termes de dommages, des arbres qui sont tombés et d'autres dommages aussi qui ont été enregistrés. Puis il y a même un homme qui est décédé alors qu'il est allé allumer sa génératrice dans son garage. Et il n'est pas revenu. Sa conjointe s'est inquiétée, puis on l'a retrouvé malheureusement. Il était décédé. Ça se passe à Saint-Amable, en Montérégie. Puis en même temps, vous avez vu au Kentucky des tornades, une trentaine, là. Et cette année, ce qu'on note, c'est que habituellement, dans la période du mois de décembre, il n'y a pas beaucoup de tornades. C'est probablement un des mois les moins actifs. Juste au Kentucky et en périphérie, c'est une trentaine de tornades qui ont frappé en fin de semaine, vendredi soir, samedi matin. Il y en avait déjà une vingtaine. Et jusqu'à maintenant, on remarque qu'il y a quoi, plus de 90 morts. Il y a des endroits qui ont été complètement balayés. La ville de Mayfield, vous avez vu les images hier, avec possiblement d'autres victimes qui vont s'ajouter au bilan parce que ça a été complètement balayé, les structures qui ont été démolies. Et puis, hier, Québec a ordonné la fermeture préventive de l'ensemble de ses systèmes informatiques qui sont accessibles depuis l'Internet. Là, j'avoue que je suis tombé en bas de ma chaise quand j'ai vu le nombre de sites qui existent sur le web et qui relèvent du gouvernement. 4 000 sites différents. Pourquoi? Ben, une faille dans la sécurité, faille majeure, touchant des serveurs à travers le monde entier. Et on sait que, d'ailleurs, vendredi, on avait des problèmes avec l'Agence de revenus du Canada. On a fermé aussi des services et d'autres. Le ministre Éric Kerr a dit, c'est pas trop compliqué le raisonnement. C'est quoi le potentiel de danger si on ferme pas par rapport aux ennuis que ça cause? Et comme, pour reprendre son expression, c'était une attaque en termes de menace, là, critique 10 sur 10. Alors, ça arrive. Et on doit. Et je sais que ça a touché Hydro-Québec. Il y a beaucoup de gens qui, hier, m'envoyaient des messages en disant comment ça se fait qu'Hydro-Québec n'est pas capable de donner l'information, que leur plateforme est fermée. Mais c'est en raison de ça. Alors, c'est un cyberpirate ou des cyberpirates qui ont tenté de prendre le contrôle des serveurs et le contrôle des systèmes. Et ça a été détecté vendredi. Puis là, tous les responsables de sécurité informatique ont été mobilisés. Puis finalement, ben, on a décidé que c'était préférable de mettre un terme aux activités comme ça sur le web. Alors, ils ont été débranchés. On va parler COVID un peu ce matin. D'abord, quand vous regardez la tendance depuis les deux, trois dernières semaines, on se rend compte que le nombre de cas double. Et encore hier, on avait un nombre assez élevé de cas, 1753 cas, 2000 vendredi. Il y a moins de tests, évidemment, la fin de semaine. C'est sûr que la plupart des gens qui sont touchés, les cas positifs, ont peu de symptômes. Mais il commence à en avoir quand même qui se retrouvent à l'hôpital, faut-il le dire, des gens qui, pour la plupart, la grande majorité, ne sont pas adéquatement vaccinés. Ça, c'est un. Deux, le nombre de cas qui touchent des enfants. Et je vois là, parmi l'équipe, des membres qui se retrouvent avec des classes fermées, puis les enfants qui sont placés en forme de quarantaine, des décisions qui arrivent comme ça le dimanche en fin de journée. La santé publique a mobilisé des équipes pour ce qui est du nouveau variant Omicron. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de milieux de vie, comme des garderies, comme des écoles, où les cas sont quand même assez nombreux. Puis également, certains autres endroits, il y a un gym, entre autres, où il y avait, disons, une enquête spéciale qui a été faite. Alors, c'est sûr qu'on a décidé d'assouplir les mesures à partir du 23 décembre. Donc, les rassemblements avec 20 personnes vaccinées et moins seront autorisés. Mais il y a beaucoup d'experts en santé qui demeurent inquiets, qui se posent la question, les enfants qui vont se retrouver dans les parties avec des adultes, puis dans certains cas, des adultes plus vulnérables, est-ce qu'on ne va pas assister à une éclosion de cas? D'autant plus que le vaccin, on le sait, perd un peu de son efficacité, notamment chez les gens plus âgés. La troisième dose est distribuée, mais ce n'est pas à la même échelle qu'ailleurs dans le monde. Alors, il y a beaucoup de points d'interrogation sur la période des fêtes. Comment on va sortir de ça, rendu au mois de janvier? Maintenant, qu'est-ce qu'on sait sur le variant? Hier, je regardais une espèce de bilan qui est préparé par le New York Times. Essentiellement, ça a été répété par l'Organisation mondiale de la santé, il apparaît hautement transmissible. Donc, c'est un virus qui voyage vite et il semble, en tout cas, donner assez de fil à retordre au vaccin. Pfizer prétend qu'avec une troisième dose, évidemment, la protection sera meilleure. Mais encore trop tôt pour dire est-ce qu'il est plus dommageable, ce variant, que ce qu'on a connu comme variant. On peut penser au Delta, puis depuis la première vague, d'autant plus que là, il y a quand même un niveau de vaccination plus qu'élevé. Et quand je regardais le tableau, d'ailleurs, au Québec, pour ce qui est de la vaccination, je fais ça tous les jours, là, les chiffres qui sont en date de vendredi, bien, on voit que c'est une campagne quand même, il faut le dire, là, marquée par le succès. Il y a encore des non-vaccinés, puis il y en aura toujours, mais quand vous regardez, incluant les 5 à 11 ans, là, première dose, c'est déjà 36 %. Et c'est 87 % des Québécois de 5 ans et plus qui ont reçu une première dose. Et pour ce qui est des deux doses, on est à 81 %. Et ça va s'accélérer. Puis il semble même que chez les adultes, on remarque une augmentation de la prise de rendez-vous pour des vaccins. Alors, voilà pour ce qui est du portrait COVID pour ce matin. Maintenant, c'est terminé. La grève, bonne nouvelle pour les garderies. On sait que la grève touchait les CPE-CSN, alors que les CPE-CESQ avaient un mandat de grève. Alors finalement, très bonne nouvelle, ça a été entériné par les membres en fin de semaine. Rapidement, je fais le tour de quelques autres informations. Vous vous souvenez peut-être de l'histoire de cette influenceuse, Elisabeth Rioux, qui avait dénoncé son ex-conjoint sur les réseaux sociaux. C'est une influenceuse sur Instagram. En disant que elle faisait face à de la violence conjugale, en disant que c'était un gars extrêmement violent. Alors, le procès de son ex-conjoint doit débuter aujourd'hui. Il fait face à des accusations de voies de fait, de séquestration, de harcèlement et de méfait, des événements qui sont survenus entre novembre 2019 et septembre 2020, pendant que Elisabeth Rioux était enceinte et pendant les premières semaines qui ont suivi l'accouchement. Et il semble que c'est durant une chicane qu'il aurait été extrêmement violent et qu'elle a donc décidé de porter plainte à la police. Pour y lire tous les détails ce matin dans le Journal de Montréal, et elle avait décidé de le dénoncer sur la place publique avec notamment des photos qui montraient les marques de violence, les blessures qu'elle avait subies. Alors tout ça commence en principe aujourd'hui au palais de justice de Saint-Jérôme. Maintenant, dans Le Devoir, les orphelins de Duplessis qui disent se sentir oubliés. Alors, c'est un peu l'histoire qu'on connaît des orphelins, donc qui ont été placés à l'époque de Duplessis sous la férule de l'Église catholique. Ils disent avoir subi des sévices, des abus sexuels, bref, victimes de prêtres pédophiles et aussi de maltraitance, comme ce qui s'est passé dans les pensionnats autochtones. Et eux demandent réparation depuis des années et ils ont l'impression qu'on les a carrément laissés tomber. Donc, vous allez retrouver ça dans Le Devoir ce matin. Puis aussi encore des histoires d'investisseurs qui flippent des maisons ou encore qui font de la rénoviction. Et on parle de gens qui achètent, expulsent, rénovent et revendent à coût élevé des propriétés qui se trouvent dans Verdun. Il y a dans la presse Ottawa qui ne veut pas donner les détails d'un contrat accordé à l'homme d'affaires Pierre Gay concernant des aménagements près du fameux chemin Roxham. Alors, il semble que M. Gay a beaucoup, beaucoup de terrain dans ce coin-là et le gouvernement a loué pour 10 ans, nous rapporte Vincent Larouche, sans appel d'offres, les terrains de M. Gay. M. Gay donne au parti qui est au pouvoir habituellement. Il a donné aux conservateurs, puis après ça, quand les libéraux ont repris le pouvoir, bien, Ils donnent aux libéraux. Donc, des terrains où on installe des campements, si on veut, pour accueillir des migrants qui traversent la frontière de façon illégale. Et là, contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre, par transparence, quelle est la nature des contrats? Puis le fédéral ne veut absolument rien dire. Alors, M. Gay est propriétaire de la boutique Hors Taxe, qui est au bout de la 15, là, et il y a un paquet de terrain. Fait que lui, il a loué ça. Puis là, si on fait des équations, on peut penser qu'il ramasse une couple de millions avec, évidemment, ce type de contrat. On me dira, ben oui, mais s'il est propriétaire des terrains, puis il n'y en a pas d'autres, à proximité, ça, je ne peux pas vous répondre, mais ce qui est clair, c'est que lui en a obtenu pas mal. Également, hier, dans le New York Times, je salue d'ailleurs nos amis de la communauté haïtienne qui sont nombreux à nous écouter, une entrevue avec la veuve du président assassiné, Moïse, où elle raconte que son mari avait entre les mains un document avec des noms de politiciens, de gens puissants, de gens d'affaires, qui à la fois sont impliqués dans des activités illégales, mais aussi dans le trafic d'armes et de stupéfiants, et que le président Moïse s'apprêtait à rendre public tous les noms. Et que, espèce d'escadron de la mort qui avait été mobilisé, devait non seulement assassiner le président, mais récupérer la liste en question. Et on sait que le président a été tué dans sa chambre, que sa femme a été grièvement blessée, qu'elle a survécu. Et elle raconte que la maison a été fouillée par les membres de ce groupe, qui était clairement à la recherche d'un document. Et elle prétend que son mari était sur le point de rendre public ses noms. On ne sait pas s'ils ont trouvé quelque chose. On ne sait pas si elle a, elle, le document en question, puis est-ce que ça va finir par sortir. Ça reste quand même à confirmer.
L'essentiel de Paul Arcand. L'essentiel de Paul Arcand.
7h26. On voit encore ce matin, il y a des menaces contre des écoles qui ferment, présence policière. On va y revenir avec Bénédicte. La semaine dernière, même situation, une école qui ferme et aussi un enseignant qui a été poignardé par un jeune de 16 ans. Notre invité ce matin, Cindy, a un fils de 16 ans qui a de graves problèmes de comportement. Et la journée même où ce professeur a été agressé, pour une xème fois, elle avait des contacts avec l'école où son fils avait été violent puis qu'on avait trouvé même des armes blanches. Elle est avec nous ce matin. Cindy, bonjour.
Bonjour.
Votre courriel est extrêmement touchant. Je veux qu'on reprenne un peu cette journée-là de mercredi à l'école, quand l'école a pris contact avec vous. C'était oui. Pour vous dire quoi exactement? Qu'est-ce qui se passait?
Mais dans le fond, moi, à 10h30, on m'appelle puis on me dit « Votre fils est en crise, il faudrait venir le chercher. » Je dis « OK, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette fois-ci? Qu'est-ce qu'il y a de plus? » Elle dit « Ben, on a encore trouvé des objets dans ses poches. » Puis quand on a voulu fouiller son sac à dos, il a explosé. Elle dit « Là, on doit le chercher dans l'école. » Il a frappé dans les murs, dans les casiers. Il a brisé une table de baby-foot. Puis on le cherche encore. Je dis, mais tu sais, moi, si je viens le chercher dans la voiture, c'est autant dangereux. Il est plus grand que moi, mon fils. Fait que j'ai appelé la police. Puis au début, il y a eu une hésitation. Mais qu'est-ce que la police va pas la ramener chez vous? Je fais, oui, mais je peux pas, moi. Je suis pas en mesure de pouvoir aller le chercher.
Fait que, qu'est-ce qu'on a trouvé comme arme dans sa possession?
Le lundi, on avait trouvé un couteau de chasse avec une vis, avec...
Il y avait un tournevis.
Le tournevis, c'était le mercredi. Avec un pic en métal aiguisé, avec un bâton en métal, puis mon couteau de couture.
C'est la première fois qu'il se promenait avec ces objets-là à l'école, à votre connaissance?
À ma connaissance, oui, mais depuis toujours, il ramasse tout sur le chemin, puis il collectionne beaucoup les choses. Mais c'était jamais aussi explicite. Puis le lundi, on avait fait... un retour avec lui sur la dangerosité des choses qui avaient été trouvées, puis que c'était important de ne pas emmener des armes à l'école. Puis que, tu sais, dans ces états de crise, on avait aussi souligné, tu sais, mon grand, quand tu fais des crises, t'es tellement impulsif, on voudrait pas que d'un coup tu passes à l'acte ou qu'il arrive un accident.
quand vous avez entendu l'histoire du professeur, c'est là que vous êtes dit, je veux pas que mon gars soit le prochain à faire ça, là.
Non, exactement. Exactement, mais ça fait déjà quelques années qu'on a des inquiétudes parce que la montée en violence a commencé il y a deux ans et demi. Puis au début, il s'en prenait juste à moi. La police, elle venait à la semaine. Puis je me faisais frapper par mon fils. On se faisait démolir des choses dans la maison. Mais ça restait quand même à la maison maintenant. Il y a eu des menaces envers ses enseignants. Il y a eu des gestes envers ses enseignants. Fait que ça commence à s'élargir puis à monter en gravité aussi. Fait que c'est des choses qui m'interpellent.
Quand la police est intervenue, ils ont fait quoi avec votre fils?
Ben, qu'est-ce qu'ils font à chaque fois, c'est qu'ils parlent avec. Une fois que la police est là, ils se calment. Ils se calment souvent devant des inconnus. Puis là, ils me demandent « Voulez-vous porter plainte? » Quand ils me frappaient, c'est « Voulez-vous porter plainte? » C'est sûr que c'est dur de le faire contre son fils. Des fois, j'avais déjà par le passé aussi appelé la DPJ, fait des plaintes. Mais il y a aussi tout le volet TSA qui vient jouer dans l'eau, comme quoi qu'on a déjà des services avec le SRSOR, donc c'est difficile pour d'autres services.
Quel diagnostic votre fils a reçu, là?
Là, présentement, il y en a des nouveaux à tous les ans, mais en tout, il est déficit de l'attention avec hyperactivité, trouble du spectre de l'autisme, trouble d'opposition, trouble grave du comportement, puis... chose des conduites. Comportement des conduites.
OK. Et il y a de l'aide pour ça? Il est accompagné par des professionnels? Avez-vous des gens qui le suivent puis qui essaient d'améliorer sa situation?
Oui, on est avec le CLSC. Le CLSC fournit des travailleurs sociaux, du répit aussi qu'on avait avant la pandémie. Là, on n'en a plus. On avait une fin de semaine par mois qui allait dans un centre d'hébergement. Puis on a aussi une pédopsychiatre qui est au dossier depuis qu'il y a 10 ans. On a aussi le SRSOR qui nous fournit une psychoéducatrice une fois par semaine. Puis maintenant, depuis la semaine dernière, une TES personnalisée pour quand il va à l'école, parce que maintenant, il va à l'école sur une base partielle.
Qu'est-ce que vous voulez?
De l'aide. Je veux voir mon fils heureux puis qu'il aille mieux. C'est tout ce que je veux.
Puis avec tous ces services-là, ça ne le rend pas plus heureux?
Non, pas du tout. Puis la grosse difficulté, c'est qu'à 16 ans, si jamais il décide d'arrêter les intervenants, de plus vouloir voir les intervenants, ben on n'a plus de moyens.
Et là, vous avez signalé le cas à la DPJ qui a été évalué. Et là, vous êtes sur une liste d'attente.
Exactement. On est en attente pour l'évaluation, pour avoir droit à une intervenante.
Vous avez peur de votre fils?
Oui.
Ça se sent beaucoup. Quand il est à la maison, comment il se comporte?
Bien, on marche tous sur des œufs. Depuis un mois, quand les fins de semaine, on essaie de moins être à la maison pour l'éviter. On n'a aucune exigence parce que dès qu'on met des exigences, il explose. Puis souvent, quand je suis tout seul, c'est là qu'il est le pire. Il est intimidé des fois par la présence masculine, fait que ça me sécurise quand mon conjoint est là, mais on peut pas non plus être séquestré à la maison, mais on n'est pas maître des lieux, mettons.
Vous avez deux autres enfants?
Oui.
Des petites filles?
Deux petites filles, 5 ans puis 6 ans.
Puis quand ils piquent des crises comme ça, là, elles font quoi, les petites?
Au début, la plus jeune s'interposait, mais maintenant, on a mis un protocole pour qu'ils s'enfuient dans leur chambre, puis... qui ferment la porte, puis ils attendent.
Pensez-vous que votre fils serait mieux ailleurs que chez vous? Une forme d'hébergement?
Pour l'instant, oui.
Pas pour toujours, là, mais...
Non, mais juste pour le temps de réussir à l'aider.
Là, vous êtes fatigué, puis vous avez peur de lui, puis la famille est épuisée. Là, malgré les ressources qui existent, malgré des gens qui essaient d'améliorer ses conditions... Ce qui s'est passé à l'école la semaine passée va sans doute se reproduire et se reproduire tant et aussi longtemps qu'il n'est pas dans un autre environnement que la maison.
Non, bien, c'est comme s'il était trop dans sa bulle sécuritaire. Fait que peut-être qu'il ne voit pas la raison pour prendre des moyens. Ou parce qu'on lui donne des outils, puis il les rejette du revers de la main. Les intervenants travaillent fort avec lui, puis il y a rien qui bouge, puis rien ne l'atteint. Il y a aussi un gros manque d'empathie. Il y a aucun regret non plus. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses qui sont dures. C'est dur aussi de... Il voit pas la nécessité de changer, selon moi, là.
Donc, quand il se fâche, il regrette pas. Il se calme, mais il regrette pas d'avoir tout cassé ou...
Non, il va pleurer. Dernièrement, il a peur de ses réactions lui-même. Mais il viendra pas s'excuser. Si jamais on fait un retour, ben il va être fâché après nous.
C'est pas un cas de maison.
Non.
Puis ce que vous souhaitez, c'est que la DPJ accélère un peu la prise en charge de son dossier.
Ben ce que j'espère, c'est qu'on n'ait pas la crise de trop, la crise qui fait des ravages.
Vous n'avez pas envie d'avoir un appel pour dire qu'il a attaqué quelqu'un, puis que...
Ou j'ai pas envie de me retrouver dans les journaux non plus.
Parce qu'il vous fait peur.
Oui.
On va relayer votre message, c'est sûr. Il y a beaucoup de gens qui vous entendent en même temps. Puis je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui vivent la même situation que vous, ce qui est d'une tristesse infinie. Merci de nous avoir écrit puis d'être venu ce matin.
Merci.
Merci. Cindy, maman d'un ado de 16 ans, qui a des services, mais ça ne suffit pas. Et elle est sur une liste d'attente de la DPJ. C'est en Montérégie, là, pour être plus clair, là. Et je sais qu'il y a bien du monde sur la liste d'attente, mais là, on a un cas qui, visiblement, n'est pas un cas de maison, puis c'est quelqu'un qui, de plus en plus, devient dangereux pour les autres, pour sa famille, puis pour lui. Fait que, si on veut pas se retrouver, comme dit Cindy, à parler de son cas dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, il faudrait peut-être que ça bouge un peu.
L'essentiel de Paul Arcand.
Je reviens sur la fermeture de sites web décrétée hier par le gouvernement du Québec. On parle de 4000 plateformes qui ont été fermées en raison justement d'une faille informatique ou une menace qui aurait pu compromettre les systèmes. J'en parle avec Patrick Mathieu, qui est expert en sécurité informatique de Hackfest Communication. Monsieur Mathieu, bonjour.
Bon matin.
Expliquez-nous d'abord quelle était la menace contre ces systèmes.
Oui, ben en fait, c'est une vulnérabilité qui est apparue dans un système qui est utilisé par des millions et plus d'applications. Fait que le concept ici, c'est quand on développe des applications, des sites web, des jeux et autres, au lieu de toujours réinventer la roue, on a le concept d'une librairie. Donc, on va utiliser quelque chose qui a déjà été fait pour ne pas toujours refaire. Cette principale librairie-là, Log4j, elle a été trouver qu'il y a un problème dedans et elle se retrouve pas mal partout. Ce qu'on dit partout, c'est que c'est utilisé pour les messages d'erreur ou autres messages que les applications vont enregistrer par en arrière. Je veux dire, ça, c'est tout dans l'architecture là, que personne ne voit. Et si un certain message malicieux est envoyé dans un champ de recherche, dans un champ d'authentification, dans notre URL, souvent, il y a plein de variables, plein de noms bizarres. Si on inclut ça dans une de ces endroits-là et que le logiciel tombe dessus, on peut avoir un accès complet au système à l'intérieur de l'entreprise. Puis à partir de là, ça peut être extrêmement dangereux.
Juste bien comprendre, est-ce que c'est un pirate potentiel, une cyberattaque potentielle ou c'est une faille? Est-ce que c'est un accident ou il y a un geste volontaire de poser dans ça?
Non, mais en fait, là, on parle d'une vulnérabilité. Une vulnérabilité, c'est vraiment une faille qui okay. a été découverte par quelqu'un. Sauf que cette faille-là est extrêmement facile à réaliser pour quelqu'un qui connaît un peu l'informatique. Et en moins de quelques heures, on a vu sur Internet, là, ça a été... quelqu'un a dit on est capable de faire une attaque avec ce problème-là. Et en dedans de, je pense, c'est 3 à 4 heures, il y avait des robots automatisés sur Internet là, qui attaquaient des milliers de sites web. Fait que, tu sais, le danger okay. que des pirates fassent quelque chose avec, c'est depuis jeudi soir déjà. Là.
Maintenant, la décision du gouvernement de fermer 4000 plateformes, il y a aussi l'Agence de revenus du Canada qui a cessé ses opérations en ligne. Quand on regarde ça devant la menace, c'était la chose à faire que de laisser ça ouvert. Puis Bref, fallait mm-hmm. fermer. Fallait fermer.
Oui, c'est la bonne chose à faire, mais ça démontre quand le gouvernement a des problèmes de ressources, a des problèmes pour aller corriger leurs choses. Je veux dire, si on parle d'une entreprise privée, la majorité ont corrigé les problèmes pendant la fin de semaine. Le gouvernement en a pour des mois. Ça rebase surtout sur le fait d'un, oui, il manque de ressources, mais aussi c'est tout un concept d'inventaire. C'est de savoir que notre logiciel utilise la librairie qui est vulnérable. Mais l'affaire, c'est que dans les librairies, des fois, il y a des ceux-ci vont aussi inclure des librairies. Donc là, on a comme un effet de boule de neige qui fait que c'est extrêmement dur de savoir est-ce que notre système A est vulnérable à ça, oui ou non. Et le gouvernement en a des dizaines de milliers à analyser comme ça. Fait que juste l'analyse va prendre beaucoup de temps. Aller corriger le tout va aussi être un problème. Mais moi, de mon côté, je pense que le gros problème qu'on a présentement, le gouvernement a fait la bonne chose. Puis ils l'ont dit en plus. Mais là, est-ce que toutes les institutions financières, les compagnies d'assurance qui ont beaucoup d'argent, est-ce qu'ils ont indiqué qu'ils allaient régler ce problème-là puis qu'ils travaillaient dessus? On n'entend pas parler de ça. Moi, je pense que c'est un peu bizarre, là.
Deux choses dans ce que vous venez de nous dire. Est-ce que vous croyez que Québec va être obligé de garder ses plateformes fermées pendant longtemps?
Bien, ça va être une approche par priorité. Donc, c'est sûr que tout ce qui est revenu, je pense que ça va être numéro un. Tout ce qui est éducation, on est en période d'examen, il risque d'être aussi rapide. Mais ils pourront pas tout régler cette semaine. 4000 sites web à l'intérieur des ministères. Tu sais, on a des intranets, des systèmes internes de ressources RH et autres. Tous ces systèmes-là sont potentiellement vulnérables aussi. Donc moi, je pense, malheureusement, okay. Là, je pense pas qu'on s'en sorte en bas d'un mois. Là.
OK. Et là, vous soulevez la question des grandes institutions financières dont on n'a pas entendu de réaction puis de commentaires en fin de semaine. Ce serait étonnant qu'elles ne soient pas vulnérables suite à cette faille?
C'est presque impossible. Je veux dire, la majorité des entreprises sur le web, même des startups qui sont très nouvelles, utilisent ce genre de logiciel-là. Quand on parle d'institutions financières, ça fait 20-30 ans qu'ils ont développé des systèmes informatiques, la probabilité qu'ils n'aient pas utilisé ce logiciel-là est très faible. Je ne dis pas que c'est 100% sûr que tout le monde soit vulnérable, mais au minimum... sont obligés de faire une analyse de leur inventaire pour voir qu'est-ce qui se passe puis s'ils sont vulnérables ou non. Considérant que c'est les institutions qui sont le plus à risque avec le plus d'informations pour nos données, puis autant les compagnies d'assurance, je pense que ils devraient sortir cette semaine de oui, on regarde ça ou regarde, on n'est pas vulnérable. Au moins, dites-le, le concept de transparence est manquant.
Ouais, l'expérience nous montre qu'elles ne sont pas très rapides habituellement à sortir sur la place publique, mais on verra aujourd'hui. Patrick Mathieu, merci beaucoup.
OK, bon, au revoir.
Patrick Mathieu, expert en sécurité informatique, président, cofondateur de Hackfest Communication.
L'essentiel de Paul Arcand.
On va passer à un autre dossier, celui maintenant de ce procès historique des attentats du 13 novembre à Paris. Vous savez que ce procès, donc, dure depuis longtemps et il y a quelque 330 avocats qui sont partie prenante, et on retrouve parmi les avocats une avocate qui origine du Québec, qui a fait des études ici, mais qui pratique maintenant en France, Maître Aurélie Cerceau, qui est avec nous. Maître Cerceau, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
D'abord, dites-nous, qui vous représentez dans le cadre de ce grand procès?
Moi, je représente plusieurs parties civiles, c'est-à-dire les victimes. Je représente des victimes qui étaient aux terrasses. Vous savez, il y a eu les attentats sont déroulés dans trois endroits, le Stade de France, les terrasses, plusieurs terrasses à Paris, puis le Bataclan, qui est une salle de spectacle. Moi, je représente des victimes qui étaient aux terrasses, et puis aussi des victimes qui étaient dans la salle du Bataclan, qui ont survécu. Tous mes clients ont survécu. Ce ne sont pas des familles endeuillées. Ce sont des gens qui étaient sur place et qui ont vécu les attentats et qui s'en sont sortis.
Et dans le cadre de cette représentation, quelle est la nature exacte du travail? Vous interrogez les accusés, vous représentez les intérêts des parties prenantes, mais qu'est-ce que vous faites exactement?
On accompagne d'abord, en fait, on accompagne nos clients parce que c'est une douleur qui est toujours très vive alors que ça fait maintenant plusieurs années. C'est une douleur très vive. Donc, on les accompagne. Depuis 6 ans, moi, je les accompagne quasiment jour après jour, hein, parfois, surtout là pendant le procès. On est là pour leur expliquer ce qui va se passer. On est là pour les porter, même parfois physiquement à bout de bras. Ça, c'est la première chose. Vraiment, la chose la plus importante, c'est d'être là pour eux. Ensuite, c'est au cours du procès, c'est de poser des bonnes questions. Les questions aux enquêteurs, parce qu'il y a plein d'enquêteurs, hein, que ce soit des enquêteurs français, des enquêteurs belges, des services spéciaux, spécialisés. Donc, c'est poser des questions qui vont permettre de comprendre comment ces accusés-là en sont arrivés à se faire exploser dans une salle de spectacle, tuer des gens à bout portant sur des terrasses ou se faire exploser au Stade de France. C'est poser des questions qui vont permettre de comprendre comment ils en sont arrivés là. Est-ce que l'enquête a été bien menée? Est-ce qu'on aurait pu éviter quelque chose? Ça, c'est vraiment aussi le cœur du sujet. Et puis surtout, c'est est-ce qu'on peut mettre en œuvre, est-ce qu'on peut avoir des moyens pour que ça ne se reproduise pas, ou en tout cas pour vraiment limiter le risque qu'il y ait à nouveau des attentats de cette ampleur-là.
Vous êtes face à ces accusés, vous les voyez à chaque jour du procès. Quels sont vos commentaires, réactions quand vous les voyez? Comment ils se comportent durant les procédures?
C'est vrai que dans la salle d'audience, nous, les avocats de partie civile, on est vraiment face à eux. On les voit, ils sont derrière des vitres de l'autre côté, dans le box. Donc, il y a leurs avocats, puis eux, juste derrière. Et puis, on les observe. On a eu 5 semaines entières de témoignages de victimes. Elles sont venues, donc soit c'était des gens qui étaient sur les terrasses, au Stade de France, au Bataclan, puis qui expliquaient ce qu'ils avaient vécu. Ou bien c'était des familles endeuillées qui ont perdu un père, une mère, un frère, une sœur, parfois même plusieurs personnes de leur famille. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, surtout, on les regardait, hein, avec mes confrères, mes consœurs. Et puis, j'ai perçu parfois des larmes. Alors, pas pour tous, vraiment. Mais on avait l'impression qu'ils étaient saisis par l'émotion, parfois. Ce qui m'a marqué, c'est, par exemple, une mère de famille qui s'est retournée vers eux. Et puis qui disait, moi, j'ai porté ma fille dans mes bras. Et j'imagine que vos parents vous ont porté dans vos bras. Et à ce moment-là, j'ai vraiment perçu chez pas mal d'entre eux quelque chose de fort. Et il y a eu ces moments-là où on avait l'impression, mais après c'est toujours délicat, c'est-à-dire qu'on se demande est-ce que c'est fin, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est... Mais j'ai la sensation que pour certains d'entre eux, en tout cas, c'était une vraie émotion et peut-être que ça les a fait réfléchir.
On dit également qu'un des témoignages importants est celui du policier qui est entré dans le Bataclan et qui, de toute évidence, a sauvé plusieurs vies.
Oui, on l'a écouté. Alors, c'était vraiment parmi les premières semaines du procès. C'est un commissaire qu'on appelle de la BAC 75N, qui est un héros, vraiment. Il y a plein d'héros. Vraiment, c'est ça qui est assez incroyable. Mais lui... Il entend sur les ondes radio qu'il y a quelque chose qui se passe au Bataclan. Les terrasses ont déjà, il y a déjà eu des explosions au Stade de France. Il y a déjà eu des fusillades sur les terrasses. Puis il prend sur lui, c'est-à-dire qu'il n'attend même pas d'avoir l'ordre d'y aller. Il y va, il est avec son chauffeur, qui est son coéquipier. Il s'arrête près du Bataclan et là, ils prennent leur courage à deux mains. Ils se disent peut-être qu'on sortira jamais de là, peut-être jamais, mais Le courage et l'envie de peut-être réussir à sauver des vies les a poussés à se dépasser, parce que le commissaire, quand il nous parle à la barre pendant des heures et des heures, il a les larmes aux yeux. On sent encore la gorge serrée. Hein. Puis on sent que quand il pousse les portes battantes du Bataclan, ils savent pas ce qu'ils vont avoir. Ils savent pas s'il y a un terroriste, deux, trois, ils savent pas. Et là, ils entrent, ils se mettent chacun de chaque côté. Le commissaire voit qu'il y a un terroriste sur la scène du Bataclan qui met en joue un jeune homme. Et il suffit quelques secondes, puis le jeune homme, il aurait pu être assassiné aussi. Parce que ils avaient déjà assassiné, malheureusement, des dizaines et des dizaines de personnes à ce moment-là. Il le met en joue et il tire sur ce terroriste-là. Il ne sait pas où sont les autres. Il se trouve que les autres, l'histoire le dira, ils étaient déjà à l'étage du Bataclan, mais il le met en joue puis il les tue. Et cet acte héroïque, a certainement sauvé mais des dizaines et des dizaines de personnes. Parce que vu sa position sur la scène, vu la position des deux autres qui étaient en haut et qui avaient une vue sur la fosse, ça aurait pu être encore bien pire que ce qu'on a déjà vu. Et Ça a été un moment où vraiment on était tous avec lui. On a tous passé les portes du Bataclan. On était tous là, tous, que ça soit les avocats, des parties civiles, des accusés, que ça soit la cour, le président, les autres juges, on était avec lui. C'était un moment incroyable et on a une chance folle d'avoir eu des gens qui ont eu ce courage incroyable.
Maître Cerceau, après le congé du temps des fêtes, qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qu'on devra suivre?
Alors, après les 15 jours, parce que là, on s'arrête 15 jours. Ça va faire du bien à tout le monde, je pense. Là, on va entrer dans le cœur du sujet. On a déjà été dans le cœur du sujet, mais là, on va enfin entendre vraiment les accusés. On va entendre les accusés sur ce qu'ils ont fait. Donc, il y a les accusés qui sont partis, hein, qui ont fait des séjours en Syrie, en Irak. Et on va entendre ce qu'ils ont à dire sur ce qu'ils ont fait pour en arriver là. Est-ce qu'ils ont fourni, il y en a certains qui ont fourni les téléphones, des armes, des fausses pièces d'identité qui ont permis le transit de certains, notamment à Baoud, qui était le meneur hein, de ceux qui ont commis ces attentats, mais qui est mort à la suite de ces attentats. On va les entendre pour qu'ils nous expliquent ce qu'ils ont fait ou pas fait, en tout cas ce qu'ils reconnaissent, ce qu'ils reconnaissent pas, et on va un peu essayer de voir ce qu'ils peuvent reconnaître par rapport aux pièces qu'on a dans le dossier. Donc ça, c'est primordial ce qui va se passer là dans les deux mois à la suite du temps des fêtes. Ça va être primordial parce qu'on va enfin entendre ce qu'ils ont à nous dire sur ce qu'ils ont fait les uns et les autres.
Je crois comprendre que vous allez profiter de cette pause pour venir faire un tour à Montréal.
Oui, je prends l'avion vendredi. Je prie pour qu'il n'y ait pas une mesure qui m'empêche encore de venir. Mais oui, vendredi, j'arrive à Montréal pour fêter, pour passer le temps des fêtes en famille. Là, c'est important.
Je comprends. Merci vraiment d'avoir pris le temps avec nous ce matin. Très gentil à vous. Très apprécié. Merci.
Merci,
monsieur. Au revoir. Maître Aurélie Cerceau, qui est avocate en France. Elle est née ici, mais elle a fait ses études en grande partie, au Québec. Elle vit en France depuis maintenant plusieurs années et donc représente des victimes du Bataclan.
L'essentiel de Paul Arcand. L'essentiel de Paul Arcand.
Bilan de la session parlementaire. Monsieur Ferrandez, à vous la parole.
Donc, des projections du site QC125 là, qui donne 97 des 125 sièges à la CAQ. Il reste juste l'île de Montréal pour l'opposition. Peut-être un comté à droite à gauche, là, pas grand-chose. Alors, c'est un balayage. À ce jour, c'est un balayage. Le goût dit qu'il faut se méfier. Ça se produira peut-être pas exactement comme ça. L'opposition va resserrer les rangs dans la dernière année, etc. Mais la population va regarder ce qui a été fait. Alors, qu'est-ce qui a été fait? T'sais, le meilleur et le pire, c'est ça qui a été fait. Dans le meilleur, on a vu la capacité du gouvernement de prendre à bras le corps des situations de déficit de personnel. Puis là, ça se résout là, en ce moment avec les éducatrices. Mais avant ça, il y a eu les infirmières. Puis il y a eu avant ça les enseignantes. Puis avant ça, les préposés aux bénéficiaires. Et on voit que la recette est un peu la même. Donc, on met le pactole sur la table. On met beaucoup d'argent. On le verra tantôt dans le deuxième sujet de la commission. Mm-hmm. Beaucoup, beaucoup plus qu'on voit même dans les médias. Et en plus, on est assez structurant là. Il n'y a pas de réforme en profondeur, mais il y a la volonté de soutenir. Par exemple, on l'a vu avec les infirmières, on met des infirmières auxiliaires en supplément, puis on met aussi du personnel administratif. Donc ça va rester comme une capacité de prendre les choses en main qui est pour la CAQ, qui est un point fort. On s'attendait pas à ça d'elle. C'est extraordinaire pour eux. Je pense que la population va le retenir. Après ça, j'en parlerai après Nathalie, mais il y a tous les programmes, toutes les réformes de programmes qui sont aussi très intéressantes.
Nathalie.
On a un gouvernement devant nous qu'on pourrait qualifier de gouvernement Teflon. Par contre, qui a vu sa cuirasse affaiblie, entre autres, dans le dossier des CHSLD. Je l'ai déjà dit, ça représente le Waterloo du gouvernement, le gros, gros caillou dans la chaussure du premier ministre. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Qui se souvient du discours d'ouverture du premier ministre le 19 octobre dernier? Hein? Le gouvernement du Québec, par la bouche du premier ministre, a annoncé qu'il prorogeait la session parlementaire pour relancer une nouvelle session, question de redonner de l'oxygène à son gouvernement à un an de la prochaine élection. Mais qui se souvient de ça? À peu près personne au Québec. Pourquoi? Parce que le gouvernement, je pense, a continué de bien faire, mais il a quand même été rattrapé par certains dossiers qui lui posent problème. Je parle du dossier du CHSLD, entre autres le cafouillage du gouvernement sous-ministre dans le cadre de la commission d'enquête de Jeanne Kamel. Il y a aussi, bien, rappelez-vous, associer le troisième lien à la corbeau-neutralité, ça fait rire beaucoup de gens au Québec. Également, le stade de baseball, c'est pas un dossier qui est terminé. Je t'entendais en parler avec Alain un peu plus tôt ce matin, Paul, affirmer que d'éventuelles subventions ou prêts pardonnables se traduiraient à coût nul pour le contribuable. Bien, on l'a tous dit, c'est nous prendre pour des cons. Également, il a été critiqué pour ses publicités sur le racisme. Il y a également l'enjeu de la ventilation dans les écoles avec le nombre d'éclosions qu'on a dans nos écoles. Ce dossier n'est toujours pas réglé. Mais malgré tout, puis Luc, tu l'as bien dit, 46 % d'intention de vote. Il faut se rappeler qu'il y a 3 ans, ils ont été élus avec 37 % malgré la pandémie. Et c'est pour ça que je parle d'un gouvernement teflon. Ce qui demeure dans ce que retiennent les gens, les citoyens, là, pour une majorité d'entre eux, c'est de dire on a un gouvernement qui est en place, qui est solide et qui est bien équipé pour faire face à la prochaine élection.
Je suis bien d'accord avec toi, Nathalie. Tout ce que tu nommes comme des espèces de dossiers corollaires aux dossiers principaux, là, à la mission de l'État, à chaque fois qu'ils prennent la parole de façon ad lib ou qu'ils lancent un programme de façon spontanée, c'est à des milles de distance, des années-lumière de distance de leur bonne performance dans ce qu'on a nommé. C'est incroyable de voir la différence. Quand Mme McCann a dit, ben c'est le chien a mangé les rapports sur le CHSLD, tu dis, mais à quoi elle a pensé? Mais c'est quoi ça? C'est extraordinairement incompétent. Quand Sonia Lebel a dit, ça va être un projet bon pour l'environnement en parlant du troisième lien, tu dis, mais mon Dieu, mais as-tu lu deux lignes là-dessus? Comment tu fais pour dire une affaire comme ça? Quand Bonnardel a dit qu'elle allait être carboneutre, quand Legault a dit que ça allait être bon pour les transports, mais aussi dans plein d'autres domaines. Là, la même Mme McCann qui est allée dire, on va prendre Antidote pour que les élèves... On a étudié la possibilité que les élèves qui passent le cours de français, le seul test qui est vraiment difficile à la sortie du cégep, puisse se servir d'Antidote. Ben OK, puis l'étape suivante, c'est quoi? C'est la peinture à numéro aux Beaux-Arts? Je veux dire, c'est quoi, là? Je veux dire,
Il y a des spécialistes qui sont d'accord avec ça, Antidote, hein? Pas pour les examens,
C'est sûr.
Mais il y a quelque chose dans ce que vous avez soulevé. D'abord, tu dis, voici ce que le gouvernement a fait comme mesure. Tu sais, je pense la réforme des tribunaux dans le cas des agressions sexuelles, la DPJ. Là, tu dis quand même, le bilan économique est quand même assez impressionnant aussi, là, en termes de... Puis d'un autre côté, autant ils sont capables de livrer dans ces domaines-là, autant à côté, tu dis, ben ils l'échappent tout le temps.
Ben c'est ça. Puis t'as nommé quelques-uns, là, je voulais en nommer d'autres, le bracelet électronique,
l'anti-rapprochement,
le tribunal spécialisé, les deux annonces de Boulet là sur la formation du personnel, notamment il va travailler sur les corporations professionnelles qui empêchent l'intégration des immigrants, il va y avoir des subventions et pour les étudiants qui étudient dans 5 domaines spécialisés, mais aussi pour les raccrocheurs sociaux ou les gens qui changent de carrière. C'est dans tous les domaines, il y a des programmes qu'on attendait depuis très, très longtemps. Fait que là, t'as des gens qui savent de quoi ils parlent.
C'est plus que des programmes parce que tu vois, j'ai devant moi 1, 2, 3, 4. Il y a un minimum 5, 6 réformes majeures qui ont été déposées, là. La loi sur la protection de la jeunesse, la loi sur la police, le droit de la famille, la loi sur la sécurité et la santé au travail. On a parlé des tribunaux spécialisés. Moi, je connais pas beaucoup de gouvernements, là, dans l'histoire récente qui, dans un si court laps de temps, ont déposé des projets de loi qui vont à ce point modifier nos vies et notre société. J'ai rarement vu ça, je vous le dis. François Legault doit être très content parce qu'il a déclaré il n'y a pas si longtemps que ce qu'il souhaitait, c'est ne pas se laisser détourner par la gestion de la pandémie. Ce qu'il souhaitait comme premier ministre, c'est de pouvoir mener à terme ses engagements. D'ailleurs, ne soyez pas étonnés si François Legault, à la prochaine élection, dit « Nous sommes le premier gouvernement de l'histoire à avoir respecté 100 % de nos engagements ». Ça va devenir un slogan de campagne électorale, ça, c'est sûr.
Par contre, pour la dernière année, ne prenez plus la parole quand c'est pas écrit sur un papier. ne vous présentez pas devant
Pourquoi tu dis ça?
Regarde, t'as vu, je te parlais de la déclaration de McCann, mais les déclarations sur le troisième lien, ou alors les déclarations.
Ouais, mais toi, tu fais une obsession du troisième lien.
OK, ben, on va parler de la
flop. Donne-moi d'autres exemples que le troisième lien.
D'accord. On va parler de la déclaration de Dubé sur la vaccination obligatoire. Tu t'en vas au bac, puis tu dis, attention, là, les enfants, là, il y en a-tu un qui va en manger une? Puis après ça, tu chacun un bonbon, tu sais.
Ah, il y en a 458 qui ont été suspendus sans solde dans le réseau de la santé, Luc. Alors, le gouvernement, oui, a eu l'impression, on a eu l'impression qu'il reculait. Absolument,
tout à fait. Ça ne voulait pas se faire tester.
Pas vacciné, pas testé, mais la résultante, c'est-à-dire la conséquence, c'était quoi? C'est qu'il y a 458 personnes qui ont été congédiées sans solde.
Ceux qui étaient, mais ceux qui n'étaient pas vaccinés, quand il a dit, vous devez vous faire vacciner, attention, ça s'en vient, c'est demain, mais finalement, ça ne s'est pas fait.
Non.
Mais qui tient rigueur au gouvernement de ça? Entre toi puis moi, Luc, il n'y a personne qui se rappelle de ça aujourd'hui, ou si peu.
Ah bon?
La preuve, c'est que même à temps une élection, ils récoltent 97 sièges sur 125. C'est énorme, Luc. C'est un balayage incroyable, un tsunami, toi. Écoute, t'es mieux de t'acheter des bouchons parce que
je suis bien d'accord avec toi, là.
Sur 125, tu vas entendre parler de la CAQ pas mal plus souvent que tu penses.
Je suis bien d'accord avec toi. Je vais juste te dire qu'il y a des fois où un gouvernement qui est performant en toute chose frappe. Seulement il rate la balle, mais il se tape dans le genou avec la batte.
On s'arrête là-dessus.
L'essentiel de Paul Arcand.